Fez et Alexis Sanson. Que Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux sieur de Terrien.
Oh! Ah, j'ai vu ses yeux.
Ouf!
Maurice Richard.
La rivière, le 16e.
Ah oui! Ah oui!
Oh, attention! Ah, oui. Oh.
Birthday!
Allô, allô?
Incroyable! Renversant! Superbe!
C'est un... Dans son cas, là, c'est
salut,
un cinquième
consécutif.
Un septième pour l'équipe.
Incroyable. François Terrien, grand érudit, tellement studieux qu'il peut nous raconter l'histoire de la colonisation du système de santé en passant par le mini-pot, mesdames, messieurs.
Ouais, là, aujourd'hui, on va présenter notre côté givré un petit peu, les gars, parce que on passe du système de santé, d'un système, il y a un sujet qui était quand même un peu aride, mais qui était nécessaire, donc à moi, là.
Oui.
Là, on s'en va au mini-golf. En fait, l'idée de cette chronique-là, c'est vous autres qui me l'avez donnée la semaine dernière, quand vous avez parlé à M. Vlaminx.
Ben oui. Mm-hmm.
Puis cette semaine, ben, on a pu revoir la Coupe 2012 de mini-pot. Puis je me suis dit, ben...
Shawinigan Sud.
Oui.
Oui, ouais. J'ai joué là toute ma carrière, moi, de joueur de mini-pot.
Ben oui.
Fait que je me suis dit que ça serait le fun de faire l'histoire de ce sport-là. Surtout que il y a origine d'un endroit mythique du golf. Là. L'Écosse, c'est le berceau du golf. Le terrain de St. Andrews, c'est l'équivalent du Forum de Montréal pour le hockey ou du Yankee Stadium ou du Fenway Park pour le baseball.
Oh, oui, c'est mythique.
Puis, ouais, c'est ça. Puis c'est là qu'a été créé le mini-golf. Parce que longtemps, le golf a été la chasse gardée des hommes et les femmes étaient même interdites de jeu. D'ailleurs, c'est pour une des raisons, puis ça, Paul Raphaël, tu vas aimer ça parce que les acronymes, t'aimes ça au bout, là. On pense que, en fait, il y a une forte croyance que le mot golf soit un acronyme qui veut dire « Gentlemen only, ladies forbidden
».
G-O-L-F.
Ça, c'est une
légende urbaine.
Ouais, c'est une légende urbaine.
Ouais, je connaissais et d'ailleurs, j'adore les acronymes.
Ouais.
C'est brillant.
Mais je pense que c'est plus un dérivé d'un mot gaélique, je pense, qui veut dire « coup ».
Gouf!
C'est golf avec un K ou quelque chose comme ça. Là.
Mais l'acronyme dénote quand même quelque chose. Là. C'est-à-dire que les femmes n'étaient pas nécessairement le bienvenu.
Non,
c'était vraiment une affaire de monsieur. Ça.
Mais j'imagine que François va nous le confirmer.
Oui, effectivement, ça a été très, très long avant que les femmes puissent jouer. Mais en 1867, il y a quelqu'un à St. Andrews qui a eu l'idée du mini-golf pour permettre aux femmes de s'initier à ce sport.
C'est tellement, quand tu regardes ça avec nos lunettes d'aujourd'hui, c'est tellement mauvais. Mais en même temps, à l'époque, l'intention était bonne. T'sais. On va leur faire des petits bâtons, des petits parcours de femmes. Là.
C'est ça, ils vont pouvoir s'initier là-dedans. Sauf qu'il faut attendre une cinquantaine d'années avant que le jeu s'ouvre à tous. Là. On parle de ça, 1867, mais entre 1867 et les années 10, là, on n'entend pas parler de mini-golf. Puis là, oups, là, dans les années 10, là, ça commence à arriver. Tranquillement, il y a des parcours qui sont créés un peu partout sur la planète, mais c'est aux États-Unis que le jeu va connaître une forte croissance. Là-bas, là, le premier parcours a été construit en 1916 en Caroline du Nord. Et pendant les années 20, là, après la Première Guerre mondiale, là, il y a eu un petit hiatus. Là. Puis dans les années 20, là, la popularité du mini-golf prend de l'ampleur. Là. Il y a des centaines de parcours qui sont érigés partout aux États-Unis. À New York, on en compte même plus de 150 sur les toits d'édifices.
Hein?
On installait ça sur les toits des édifices. C'est incroyable. Hein? Il y en avait à peu près 150. Puis, un peu partout aux États-Unis, ben, on construisait des parcours. Puis, il y a même eu, là, à un moment donné, là, des tournois. On a commencé à faire des tournois de ça, puis c'était quand même assez payant.
Hey, mais dis-donc, François, à cette époque-là, il n'y avait pas encore des crottes en plastique dans le trou puis des jets d'eau qui te refrisent dans la face, puis c'était pas encore ça. Là.
Non, ben là, c'est ça. Là. Ça va venir plus tard. On va y arriver. Là. Okay. Mais au début, là, c'était des parcours de golf. Évidemment, c'était pas du vrai gazon, là. C'était synthétique. Mais il y avait des petits parcours de golf avec des obstacles. Mais là, la crise des années 30 là, va probablement pratiquement éradiquer tous les parcours. Il y en a quelques-uns. Il y a une poignée de ces parcours-là qui ont survécu aux États-Unis. Un des plus vieux, il est à Rochester, dans l'État de New York, là, sur les rives du lac Érié. C'est le Tall Maples Miniature Golf Course. Il existe encore. Puis si vous allez jouer là, c'est un des plus vieux qui est en existence aux États-Unis. Là. Après la crise des années 30 et la Seconde Guerre mondiale, c'est dans les années 50 que le retour en force du mini-golf va se faire. Il se démocratise dans les années 50 parce que dans les années 30, les années 20 et les années 30, on construisait des parcours dans des lieux de villégiature huppés. Puis c'était les gens riches et célèbres qui allaient là puis qui s'initiaient à ça. Là. Le commun des mortels. Ouais, ouais, ben c'est ça.
Riches et célèbres.
C'est ça, des gars de la plèbe comme moi puis toi, Paul Raphaël, on était pas ennemis. Alors donc, dans les années 50, le sport, si vous voulez, se démocratise. Il y a de plus en plus de lieux de villégiature grand public, comme les villes et villages en bordure de mer, qui voient ce type de divertissement-là se multiplier. Et plus on avance dans le temps, plus les parcours rivalisent d'originalité. Là. Si vous allez quelque part à Old Orchard ou peu importe, là, vous allez en voir de toutes les couleurs. Là. Mais celui-là qui m'a scié les jambes dans cette recherche-là, là, c'est le cas de le dire, il est situé à Lexington, au Kentucky. C'est le Bible Mini-Golf Course.
Bible comme la Bible.
Compris? Oui, comme la Bible. Il y a trois parcours de 18 trous. Oh. Celui du Vieux Testament, celui du Nouveau Testament et celui des miracles de la Bible. Alors, à chaque parcours, au lieu d'être le totem, la montée, le ci et le ça, là, ben, eux autres, il y a un verset de la Bible à chacun des trous. Puis le trou, le thème tourne autour du 10 versets. Et yes. Sur le parcours des miracles, là, sur l'un des trous, on peut voir l'eau se changer en vin.
Oh c'est non!
Monsieur, que c'est concept!
Là, je viens d'aller taper ça sur Google. Il y a même des statues, tu vois, Jésus à côté du trou. Là, maintenant, il faut que tu contournes Jésus pour rentrer ta balle dans le trou. Mais c'est incroyable, là.
Non, c'est moi je vous le dis là, il est sur ma bucket list là. À un moment donné dans ma vie, je vais passer par Lexington Kentucky, puis je vais aller jouer le Bible Mini Golf Course.
Oh, que c'est hot,
ça n'a aucun bon sens.
Mais ça c'est très américain, hein. Les mini golf aux États-Unis ont rien à voir avec ceux du Québec. Là, eux là, c'est toujours flamboyant, une montagne, un bateau de pirate, une grotte par en dessous.
Le rigolfeur à Lévis, c'était assez flamboyant.
Oui, mais il y en a moins ici aux États-Unis. T'en as à tous les villages.
Ben c'est ça, c'est un sport dans le fond qui se joue beaucoup pendant les vacances. Alors les villes de bord de mer, il y en a plein. D'ailleurs, Myrtle Beach en Caroline du Nord, qui est pas très très loin de l'endroit où le premier mini golf a été construit aux États-Unis, s'est autoproclamé la capitale mondiale du mini golf. Eux autres, ils en ont 50.
Ouais, il y a 50, mais c'est la capitale mondiale du golf, point, ouais, Myrtle Beach.
Ben, aussi là, parce que quand il y a un paquet de Québécois qui s'en vont jouer là.
Ouais, je suis déjà allé une fois. Ouais.
À la fin de l'hiver, là. Mais vous pouvez, si jamais là, t'es allé jouer au golf, tu peux jouer au mini-golf tant que tu veux. Il y a 50 parcours là. Puis d'ailleurs, il y a un important tournoi qui se déroule chaque année. Le US Open du mini-golf. Oui, oui. Ça existe. Il se déroule à Myrtle Beach. Parce que parallèlement à ça, il y a un volet compétitif très fort qui s'est développé dans ce sport-là dès les débuts. Les premières compétitions connues de mini-golf ont lieu aux États-Unis en 1930. Puis il y avait des méchantes bonnes bourses, là. Ça pouvait aller jusqu'à 10 000 $ en tout avec 2 000 au gagnant. Alors, en dollars d'aujourd'hui, 10 000 $ c'est 160 000 $
Et palais, quelqu'un m'a dit gagner moins que ça, là.
Ben oui. C'est plus modeste aujourd'hui, là, mais quand même, quand tu regardes ça, là, c'est un peu impressionnant. Le US Open 2020, là, qui va avoir lieu à Myrtle Beach, là, il y a 15 000 $ en bourse, à peu près 4 000 aux gagnants. Il y a aussi à Hastings, en Angleterre, le World Crazy Golf Championship. Le gagnant, pardon, repart avec 1 300 $US. Puis ce sport-là, il échappe.
Ça, c'est le Crazy Golf, donc golfeur, là.
Oui, c'est ça. Okay. C'est un parcours, là. Disons qu'il y a un gros facteur de chance qui rentre là-dedans, là. Mm-hmm. Contrairement aux mini-potes qu'on voyait à la télévision.
Ben, surtout quand tu connais pas le parcours. Moi, je vais te dire, la dernière fois que je suis allé, l'été passé, au mini-potes sur Amel, la fois que le vent m'est parti dans une espèce de petite pompe à vent, la fois que ça m'est parti d'en face, le cœur a failli m'arrêter. C'est sûr que j'ai pas fait un birdie ce coup-là.
Ouais, c'est pas toujours évident, mais le sport là, le mini golf est chapeauté par une fédération qui s'appelle le World Mini Golf Sport Federation, qui est basée à Göteborg en Suède. Il compte 50 membres. Il y a 50 pays membres dans cette fédération-là. Canada n'en fait pas partie.
Non,
c'est un sport qui est essentiellement européen. La majorité des tournois majeurs, là, quand tu regardes ça, ont lieu en Europe. Par exemple, en Suède, il y a 8000 joueurs fédérés. En Allemagne, il y en a 11 000. Fait que c'est quand même assez particulier. Au Québec, l'âge d'or des tournois a eu lieu au début des années 70, lorsque les compagnies de cigarettes les commanditaient très généreusement. Carl Carmoni, là, vous parliez de Carl Carmoni tantôt, oui. Là, mm-hmm. Lui, il racontait qu'il pouvait faire, il y a certains étés, là, il pouvait friser les 10 000 $ en un été. Puis dans, au début des années 70, lui, je ne sais pas c'était quoi son emploi, mais il faisait un salaire annuel de 3 000 $ Mm. Il dit, grosso modo, là, je faisais au moins une fois et demi mon salaire à chaque été. Alors, c'était payant longtemps. Ah ouais. Et ces tournois-là avaient lieu sur ce qu'on appelle les mini-potes. Les mini-potes, ça a été créé par un Québécois qui s'appelle Jean Benoît. Lui, l'idée lui est venue après des vacances aux États-Unis. En 1970, là, les trois premiers vont être construits dans la région de Montréal. Pantoute, il va en avoir 125 au total au Québec. Là. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Là. Il en reste une dizaine à peu près. Là. Mais aux fêtes de la popularité des mini-potes, là, il y en avait 125. C'était des franchisés et les parcours devaient être identiques d'un à l'autre. Mm-hmm. Probablement que M. Benoît avait pris son idée des potes-potes aux États-Unis. C'est une entreprise américaine qui ressemble aux mini-potes, qui avait été fondée après la guerre, qui avait le même concept. Eux autres, il y avait plein de parcours un peu partout aux États-Unis, puis c'était le même d'une ville à l'autre. Là. C'était le même parcours. M. Benoît avait lui-même dessiné les parcours. Il y en avait trois. Le mini, celui qu'on le voit le plus souvent, là, les tournois télévisés, et c'est le plus célèbre, c'est celui qu'on joue là, avec le totem et tout. Mm-hmm. Il y avait le maxi.
Monstre.
Ouais, le monstre, oui, c'est le fameux monstre. Ouais. Puis il y avait le maxi. Le maxi, lui, c'était un parcours qui ressemblait au mini, mais il était plus difficile. Mm. Puis finalement, il y en avait un troisième qui s'appelait le midi. Mais il n'a jamais été construit, lui. Monsieur Benoît l'avait dessiné, okay, mais il l'a jamais fait là, sur un vrai parcours.
Ça, c'est toutes des sortes de potes. Fait que t'avais le mini-pot, le maxi-pot, puis le midi-pot.
Exactement. Eh ben, comme je te dis, le midi-pot, ouais. Personne n'a jamais joué parce qu'il l'a pas construit.
Le mini-pot était jaune, les bandes étaient jaunes, le maxi était orange.
Oui. Vez, on a un projet. On refait le midi-pot.
Non, mais à Shawinigan Sud, c'est comme ça. On a le mini et le maxi, et les bandes sont jaunes et oranges, respectivement.
Ah, mon Dieu, les gars, vous êtes des stars.
Il y en avait un en haut de la côte chez nous, à Saint-Louis-de-France, au coin de chemin Saint-Louis et La Forêt.
François, il vient de là, lui.
Je ne me souviens pas de ça.
C'est là où il y a un petit centre commercial qui est là, puis en face, il y a une maison pour personnes âgées. C'était sur le site de la maison pour personnes âgées. J'allais travailler là dans les années 70. Ben, travailler, on allait passer le balai, puis ils nous payaient en partie gratuite. On passait notre été là.
Mais c'est ça. À cette époque-là, il y en avait partout. En fait, mm-hmm. Des mini-potes, là, dans la région de Québec, il en reste un, puis il est à Beauport. Il est sur Seigneurial, ouais. À Beauport. Là,
c'est un vrai mini-pote.
Oui, c'est ça. Parce que c'est ça qu'il faut faire attention. En fait, l'expression mini-pote, là, au Québec, c'est un peu comme le frigidaire. Le frigidaire,
ouais,
là,
c'est
une marque, là. Ben, mini-pote, c'est une marque. C'est quand on va jouer au mini-pot, là, on va jouer au système de jeu que je vous ai raconté. C'est différent de, bon, voyez-vous, celui dont tu parlais, là, sur le boulevard Amel, là.
Ça, c'est un fun lui, pot.
Ouais, c'est ça. C'est un fun pot. C'est pas un mini-pot. C'est un autre genre. Il y a eu le rigolfeur qui est arrivé à un moment donné. Ça, c'était un autre genre de mini-golf aussi. Mais le mini-pot, là, c'est un style de parcours. C'est une marque brevetée, carrément. Comme Frigidaire.
Kleenex, si vous voulez. Skidoo.
Mais je pense que le fun pot sur le Baramel, là, il était un mini pot avant. Parce que c'est les mêmes parcours.
C'est les mêmes
parcours. Ils ont peut-être agrémenté.
Ils ont rajouté de l'eau qui te refrise d'en face.
Ouais. Ouais, mais tu peux en avoir un normal aussi. De mémoire, il y en a un bizarre puis un ordinaire.
Ah, peut-être.
Mais là, dans mes souvenirs, je suis allé l'été passé. Mais ça se peut que je me trompe, mais c'est pas important.
En tout cas, il y a des mini-golfs au Québec, là, il y en a une trentaine d'à peu près, sont prêts, on prend toutes les régions. Il y en a même un sur les îles de Madeleine.
Oh, ouais.
Puis des mini-potes, il en reste à peu près 10 là, disséminés un peu partout au Québec, dont un à Québec, là, celui sur Seigneurial à Beauport.
Ouais. Puis sur l'Étrière à Cap-Rouge, il y en a un qui ressemble pas mal à un mini-pot aussi. Mais je pense qu'il s'appelle pas comme ça. Il y a un champ de pratique, là, mais il y a un mini-pot aussi.
Ouais. Bon, écoute-là.
Parle-moi de la TV, François.
Ouais, c'est ça. Ça nous amène à parler du défi mini-pot à RDS.
Ben oui.
Parce que le mini-golf, il y a eu deux vies à la télévision québécoise. Dans les années 70, d'abord, là, je vous parlais de Carl Carmoni, là, qui faisait le double de son salaire, pratiquement.
Mais ben
ces tournois-là, là, auxquels il participait, lui et d'autres, étaient présentés à la télévision. Puis, après ça, il y a eu la fin des années 80 jusqu'à l'an 2000. Là. Le deuxième chapitre, lui, est connu sous le nom de défi mini-pot RDS. Mais il a commencé avec l'ancêtre du réseau des sports. Les plus vieux se souviendront de TVSQ, mm-hmm. C'était la télé des sports.
Ouais.
Ben, à l'époque de TVSQ, l'émission s'appelait l'heure du mini-pot. Ça avait commencé là, puis quand TVSQ est devenu RDS, ben ça a commencé. Puis évidemment, ben, la légende, on la connaît, là, grâce à la description colorée de Serge Vlemings.
Ben oui.
Les Carl Carmoni, Suzanne et André Buis et bien d'autres sont entrés dans la légende. L'émission là, a été diffusée sans interruption de 1986 à l'an 2000. Et c'est les franchisés Minipot qui devaient payer pour le financement de l'émission. Puis ce sont eux, à un moment donné, qui ont décidé d'arrêter. Ça n'a pas été leur meilleure décision, parce qu'à partir du moment où ça a été la fin du défi Minipot, leur sport puis leur terrain ont été beaucoup, beaucoup moins fréquentés. L'entreprise de production vidéo TVGO réalisera le défi Minipot 2012. Là, pour ceux qui ont vu ce que RDS nous a représenté cette semaine, ben c'était ça. C'était celui de 2012, parce que figurez-vous que toutes les émissions enregistrées entre 86 et 2000 n'existent plus. Je ne sais pas pourquoi, mais les archives ont été détruites à un moment donné.
C'était trop bon.
Tu parles d'une perte pour la télé québécoise, toi. C'est pour ça qu'ils nous ont présenté celui-là. C'est le seul qui existe encore dans les archives. Carl Carmoni, lui, organise toujours des tournois dans différents mini-pots de la province. L'année passée, il y en a eu 4, là, évidemment, avec le COVID-19. Ils sont pas sûrs de ce qu'ils vont faire cette année. Mais quand même, les bourses peuvent atteindre 1 200 $ au total dans un tournoi de 100 participants. Alors, c'est quand même, ça peut être intéressant. Puis Carl Carmoni dit qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui s'initient à ça. Puis d'ailleurs, parlant de Carl Carmoni, figurez-vous que vous pouvez vous procurer des T-shirts à l'effigie de Carl Carmoni. Il y a un site qui s'appelle minipot.net. Qui est hébergé par M. Carmoni. Il y a deux modèles de T-shirts qui sont disponibles sur son site. Dans un, c'est écrit, là, on voit lui et Serge Vlemings, et c'est écrit « Ça se pourrait, ça se pourrait,
Burnie! » »« Ça se pourrait, ça se pourrait, Burnie! »
Et le nom moins célèbre, incroyable, renversant, superbe.
François, j'utiliserai les mêmes qualificatifs pour cette chronique. Incroyable, renversant, superbe.
Ben, c'est donc bien gentil. Hey, on va parler de centres commerciaux la semaine prochaine.
Oh, centres commerciaux, fantastique. Yes. Merci beaucoup, François. Salut, bye. François Terrien, grand érudit,
oui,
qui nous fait l'histoire du mini-golf.
J'ai regardé, j'ai fouillé un petit peu pour essayer de voir s'il y en avait au Saguenay. J'en ai pas trouvé. Peut-être que j'ai pas cherché à la bonne place.
Jean de Saguenay qui nous écoute sur Kick 95.7. Ouais. Envoyez-nous donc l'info au 25226. Y en a-tu des mini-golf, des mini-potes par texto au 25226 dans votre coin? Et si oui, où? La réponse après la pause.
Que Québec se lève.